d'un homme ce matin qui doit forcément nous interpeller, parce que cet homme, il a tout perdu. Il a tout perdu. Alors, peut-être vous cherchez, ouais, j'ai entendu Job, ouais, c'est vrai, mais il a tout gagné à la fin, Job. Vous voyez, il a tout gagné. Hein. J'aimerais nous dire ce matin que le désir du Seigneur, c'est qu'on gagne. Quand je dis qu'on gagne, ce n'est pas dans le sens qu'on l'entend ici-bas, hein, mais dans un autre sens. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Il a gagné, vous voyez, il a gagné. C'est-à-dire qu'il sait où il va, hein, il a une assurance, il a une espérance. Hein, mais cet homme dont on va parler ce matin, il a tout perdu. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il a perdu son salut, parce que ça ne m'appartient pas. Mais enfin, vous allez voir avec moi que c'est allé très loin son affaire, c'est Lot. Et je voudrais qu'on parle de Lot ce matin, qui était le neveu d'Abraham. On va lire un texte dans la Genèse, chapitre 19. Un texte que je qualifierais peut-être de, je ne sais pas, comment on pourrait dire ça, de terrible. Une histoire terrible, peut-être une des plus terribles de la Bible, quand on le lit, quand on essaye de réfléchir. Des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait ça dans la Bible? Pourquoi Dieu a voulu que ça s'apparaisse? Mais c'est pour que ça nous serve encore à nous aujourd'hui. Alors regardez, Genèse 19, on va lire à partir du verset 27. Ça s'affiche, hein, Genèse 19, verset 27. Alors rappelez-vous qu'Abraham, c'était le tonton, hein, et que Lot, c'était le neveu. Il est dit ceci, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Dieu venait de détruire Sodome et Gomorre. Il dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Vous voyez ? Donc il a prié, vous rappelez ? Lot, Abraham plutôt a prié. Vous voyez, comme quoi c'est important de prier. On ne perd pas son temps quand on prie. Hein. Vous voyez ? Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. On a du mal à dire Amen, mais c'est ce qui s'est passé. Et vous le savez, ceux qui lisent la Bible, les Ammonites et les Moabites sont devenus par la suite des ennemis du peuple d'Israël. Voyez, donc ça n'a pas été sans conséquence cette affaire. Hein, voyez. Mais si je résume un petit peu ce qu'on vient de lire, je dirais que Lot, c'est l'homme qui a tout perdu. Et on est ici à la fin de l'histoire de Lot. On est ici à la fin de son histoire. D'ailleurs, vous regarderez, vous lirez, à partir de là, dans la Genèse, on ne parle plus de cet homme. C'est comme s'il disparaissait de la circulation. Voyez, bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a une ou deux allusions à Lot. Je pense à cette parole de Jésus, souvenez-vous de la femme de Lot. L'apôtre Pierre aussi va en parler, je vais y venir à la fin. Mais ici, à partir de ce chapitre 19, c'est la fin. Commence le chapitre 20, l'histoire d'Abraham continue, mais l'histoire de Lot s'arrête. Voyez, on sait pas quand il est mort, on ne sait pas ce qu'il a fait. On n'en sait rien, mais si je résume, en fin de compte, il a tout perdu. Il ne lui reste plus que ses deux filles. Sa femme est devenue une statue de sel, connaissez l'histoire. Ses fils, parce que figurez-vous qu'il avait des fils, si vous lisez bien Genèse 19, vous allez voir qu'il y avait des fils aussi. Ses fils, ils sont plus là, ils sont morts dans Sodome et Gomorre. Ses gendres, à qui pourtant il avait dit, mais sortez de Sodome et de Gomorre, Dieu va détruire cette ville. À leurs yeux, il a paru plaisanter, vous voyez, il avait perdu sa crédibilité. C'est terrible quand un chrétien perd sa crédibilité. quand on ne le croit plus, voyez, parce qu'il a un témoignage qui n'est pas ce qu'il devrait. Voyez. Ses gendres, il ne les a plus non plus. Et puis, je remarque une chose aussi, c'est qu'il a même perdu plus que ça. Il a même perdu ses richesses. Parce que si vous vous rappelez, au départ de l'histoire, quand Abraham et Lot se séparent, la raison, c'est quoi ? La raison, vous lirez ça, Genèse chapitre 13, c'est que les bergers de Lot se sont disputés avec les bergers d'Abraham. Leur troupeau était si considérable qu'il n'y avait plus de place pour eux. Ils ne pouvaient plus habiter ensemble, ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Et avoir des troupeaux à cette époque-là, ça signifiait être riche. Voyez, donc il avait des biens matériels, il avait de quoi faire, voyez, hein, et il a tout perdu, puisque ici on voit qu'il est obligé d'aller habiter dans une caverne. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est un petit détail, hein, verset 30, il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Lui qui avait habité dans le luxe, lui qui avait des moyens, il n'a plus rien. Il a tout perdu, sa famille, sa femme, ses fils, ses biens, il n'a plus rien. Et j'ai envie de dire, c'est tout sauf une surprise. Et c'est ça qui est terrible. Des fois, il peut nous arriver des choses, ça vous tombe dessus comme un couperet, c'était pas prévu, et c'est vrai que quand quelque chose vous arrive de ce style-là, il n'y avait rien qui l'annonçait, on est là, on est pris de court, quoi. Mais l'autre, c'est pas ça. Quand vous lisez l'histoire de l'autre dans ces chapitres de la Genèse, vous vous rendez compte que si à la fin il a tout perdu, c'est tout sauf une surprise. Il y a des raisons, voyez. Par exemple, regardez, lisez avec moi, juste un petit peu, on reprend l'histoire au départ, Genèse chapitre 12, on est au tout début, on ne connaît pas encore bien Lot, il chemine avec son oncle Abraham, et il est dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, écoutez bien parce que tous les détails sont importants, hein, je donnerai à ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et regardez ce verset 8, il est très important. Donc Abraham, il se transporte de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et regardez, il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident, Bethel ça veut dire maison de Dieu, vous le savez, et Haï, qui veut dire ruine ou tas de ruines, Haï à l'Orient. C'est bien ça? Parce que quand vous allez un petit peu plus loin, chapitre 13, c'est le moment où Lot va se séparer de son oncle Abraham et qu'il va devoir faire un choix pour lui-même. Et là, regardez ce qu'il fait. Genèse 13, verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers où? Vers l'Orient. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a lu? Haï, qui veut dire ruine, se trouvait à l'Orient. Ça veut dire qu'il prend la direction de la ruine. Et c'est évident que quand on prend cette direction-là dans notre vie, eh bien, ça ne peut pas bien finir, quoi. Ça ne peut pas bien finir, voyez. Et l'histoire que j'allais dire, cette histoire de Lot, elle est là pour nous amener à comprendre une chose, et je voudrais vraiment ce matin que ça puisse nous interpeller, c'est qu'il y a des choses dans nos vies à ne surtout pas banaliser si nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il y a des choses à ne pas banaliser. Il y a des choses à ne pas négliger. Voyez, il y a des choses auxquelles il faut faire attention si on veut être gagnant, si on ne veut pas tout perdre. Et je voudrais m'arrêter, en m'arrêtant sur l'histoire de Lot, sur 3-4 choses rapidement à ne pas banaliser. Et peut-être ce matin, ça va parler à quelqu'un. On va se retrouver dans un point ou dans un autre et dire, bah oui, c'est vrai que ça ressemble un peu dans d'autres circonstances, mais ça ressemble un peu à ma vie. Alors si tel est le cas, ben bénis Dieu ce matin. C'est pas pour nous faire du mal, c'est au contraire pour nous dire attention. Voyez, et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voyez. Alors première chose à ne pas banaliser, je remarque une chose, c'est que Lot, c'est l'image du croyant qui n'a fait que suivre le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui ressort d'une manière très visible chez lui. Regardez, Genèse 12, verset 4, la première fois où on découvre un petit peu Lot, il est dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Vous vous rappelez, Dieu s'était révélé à Abraham, il va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, tu vas là où je t'enverrai. Donc il obéit, part comme l'Éternel lui avait dit. Et regardez, et Lot partit avec lui, il le suit. Bon, d'ailleurs, pourquoi pas? Sauf que vous allez un petit peu plus loin, Genèse 13, vous retrouvez la même chose. On est dans une autre situation, une autre circonstance. Il est dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et encore une fois, et Lot avec lui. Vous voyez, on a l'impression que Lot, il ne fait que suivre le mouvement, vous voyez. Il ne fait que suivre le mouvement. Et ça, quelque part, c'est dangereux. Parce que tôt ou tard, il arrive toujours dans nos existences des moments où il faut qu'on prenne des décisions, qu'on fasse des choix personnels. Voyez, et si on s'est contenté simplement et seulement de suivre le mouvement, de faire comme tout le monde fait, on suit, ça part là-bas, je vais là-bas, ça part là-bas, je vais là-bas. Mais le jour où il faudra faire nos propres choix, prendre nos propres décisions, il y a de fortes chances qu'on se plante. Et j'aimerais peut-être nous dire ce matin, mon frère, ma sœur, dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, je ne peux pas me contenter de suivre le mouvement. Voilà. Je suis le mouvement, alors peut-être parce que, je ne sais pas moi, il y a un leader un peu charismatique, alors je suis. Je suis parce qu'il y a un programme d'église qui est pas mal, alors je suis. Je ne fais que suivre, ça va là-bas, je vais là-bas, ça part là-bas, je vais là-bas, ça revient en arrière, je repars en arrière. J'ai besoin d'avoir ma vie personnelle avec Dieu. J'ai besoin d'avoir ma relation personnelle avec Dieu. Parce que tôt ou tard, les uns et les autres, à cause des situations de la vie, à cause des circonstances de la vie, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Il y a des moments où il faut faire des choix, il y a des moments où il faut prendre des positions. Et si je me suis contenté toujours que de suivre, que de suivre, que de suivre, eh bien, à un moment donné, voilà, je risque de faire les mauvais choix. C'est ce que l'autre a fait. La fois où il a fallu que lui prenne une décision, mais il a pris la plus mauvaise des décisions. Parce qu'il s'était contenté de suivre. Vous voyez ? Il ne s'était pas enraciné, lui, profondément, dans la connaissance de l'Éternel. Voyez, Abraham, lui, il marchait pas comme ça. L'Éternel lui parlait, il avait une relation avec Dieu, il suivait. Voyez, il suivait Dieu. Alors que l'autre, lui, il suivait Abraham. Voyez, c'est pas pareil. Voyez, c'est pas pareil. Des fois, on peut suivre tel chrétien, on peut suivre même tel pasteur. On peut même suivre tel pasteur. Puis le jour où le pasteur, il s'en va, mais on est attaché au Seigneur, on n'est pas attaché au pasteur. On est attaché au Seigneur, on n'est pas attaché au frère ou à la sœur, même s'il nous a conduits au Seigneur, même s'il nous a amenés au Seigneur. Mais c'est au Seigneur qu'on s'attache. Comprenez ? Je ne peux pas suivre le moins. J'aimerais peut-être m'adresser peut-être aux amis qui, peut-être vous venez depuis quelque temps ou depuis longtemps. J'aimerais vous inviter à ne pas simplement vous contenter de suivre le mouvement. Je viens, ça me plaît, ça me fait du bien. Oh, tiens, c'est différent, c'est bien, ça me parle, ça ne me laisse pas indifférent. Tant mieux, c'est super, mais il faut aller plus loin. Il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut ouvrir son cœur. Oui, c'est bien, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. On ne peut pas se contenter de suivre le mouvement parce que sinon, un jour ou l'autre, parce que la vie est faite de haut et de bas, il y aura un moment plus difficile et tu vas lâcher. Alors que si tu as fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, ça va changer des choses. Tu traverseras la difficulté de manière différente. Et pour nous, les chrétiens, bien de la même façon, on ne peut pas se contenter de suivre le mouvement. Bon, allez, je viens, je suis là, je suis. Voilà. Mais il faut plus que ça. Et c'est important parce que si je banalise ça, je risque de tout perdre à un moment donné ou l'autre. Ça, c'est la première chose concernant chez l'autre qu'on voit qui ressort. La deuxième chose, et ça aussi c'est important, ne banalisons pas les signaux d'alarme que le Seigneur nous lance. Parce que Lot, avant d'en arriver à ce qu'on a lu, et je vais y venir à ce qu'on a lu là, il y a eu des signaux d'alarme avant. Il y a eu des choses qui auraient dû l'interpeller quand même, qui auraient dû se dire, là, j'ai peut-être fait un mauvais choix. Voyez, j'ai fait un mauvais choix. Rappelez-vous, on l'a lu, Lot, Genèse, chapitre 13, verset 11, Lot fait ce choix, il part vers l'Orient à Sodome et Gomorre. Il met ses tentes à Sodome et Gomorre. Et puis vous arrivez au chapitre 14, alors je vous résume un petit peu. Chapitre 14 de la Genèse, il est question d'un conflit entre le roi de Sodome, là où Lot avait établi sa demeure, et d'autres rois. Ils se sont chicanés, ils se sont rentrés dedans, ils se sont battus. Bon, vous voyez, c'est l'histoire de l'homme ça, hein. Ils se sont battus. Sauf que le roi de Sodome va perdre. Et on va le lire, on va lire quelques versets. Lot va être comme une victime collatérale de ce conflit. Il n'avait rien à voir avec ce conflit, mais il va être une victime collatérale. Et regardez ce qu'il est dit. C'est très intéressant. Il est dit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Et regardez, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, ils s'en allèrent. Lui, il était là, il n'avait rien à voir avec ces gens, il n'avait rien à voir avec ces rois-là, il n'avait pas de conflit avec eux. Mais il est une victime collatérale, vous voyez ? Et il est enlevé avec eux. Voyez, vous avez vu ces histoires d'enlèvement dont on parle ces derniers jours ? C'est un peu ça, vous voyez ? Bon, ben, les gens, ils sont enlevés. Bon, ils sont des victimes collatérales. Voilà. Mais là, c'est un peu pareil, vous voyez. Et regardez, il est dit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et regardez, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et regardez, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voyez ? Donc, il a échappé belle, Lot. Et il peut dire, merci tonton. Ben oui, merci tonton Abraham, hein, parce que tu m'as sorti d'un guépier dans lequel je me suis retrouvé fourré. Certes, j'y étais pour rien, mais je me suis retrouvé mêlé là-dedans. Mais dites-moi, vous ne pensez pas que quelque part, cette affaire-là, c'était comme un signal d'alarme, dire, ouh, t'es pas à ta place. Décampe de là. C'était un signal d'alarme. Ça aurait dû l'alerter. Ça aurait dû l'amener à se dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça tourne pas rond. C'est pas possible. Vous voyez, ça aurait dû l'interpeller. Ça aurait dû le faire réfléchir. Ça aurait dû résonner comme un signal d'alarme. Vous voyez, mais pas du tout. Mais alors, absolument pas. Mais alors, même pas pour rire. Il n'a même pas réfléchi. Vous voyez, regardez, parce qu'au chapitre 19, verset 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Les deux anges, alors là on est bien plus loin, mais quand Dieu va vouloir l'épargner, il est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot, il était où? Il était parti? Non, il était toujours. Hein. Il était toujours. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et mais, quand il est dit là, il était assis à la porte de Sodome, en fait, il faisait partie des hommes influents de Sodome et Gomorrhe. Vous vous rendez compte? Non seulement il n'en était pas parti, mais en plus, il était devenu quelqu'un d'important à Sodome et Gomorrhe, à tel point qu'il était là avec les notables de la ville, etc. Il n'a pas compris que cette histoire où Abraham est venu le sortir de ce guépier dans lequel il était, c'est un signal d'alarme. Vous voyez, il n'a pas compris ça. Et là, j'aimerais dire ceci. Je ne sais pas. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être, mon frère, ma sœur, ça fait un moment que le Seigneur tire la sonnette d'alarme. Ça fait un moment qu'il y a peut-être une alarme qui sonne. Et j'aimerais nous dire, ne la banalisons pas. Si quelque part... ça va pas, si quelque part on sent que... Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bon, il a fait un mauvais choix, il s'est trompé. Ok, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Ok. Mais quand il s'est fait enlever, là, et que l'oncle vient le libérer, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille pour dire, là, j'ai dû faire un mauvais choix. Ça aurait même dû l'amener à rebrousser chemin pour dire... Écoute, Abraham, je ne peux pas revenir avec toi. Écoute, on va voir comment on peut faire, mais j'ai pas fait le bon choix. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte de ce signal d'alarme, vous voyez. Et moi, j'ai envie de nous dire ce matin, mais si quelque part, il y a une sonnette d'alarme qui sonne dans notre vie, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon, mais entendons-la. Entendons-la. Vous imaginez si ce matin, il y a une alarme ici. Le système est bien fait, c'est bien, tout est bien fait. Vous avez les trucs verts, là, les plots verts là, qui indiquent les sorties de secours, etc. Imaginez, ce matin, là, imaginez, tout d'un coup, déjà, ça va vous casser les oreilles. Mais vous avez... Et moi, je vous dis, oh, vous inquiétez pas, on continue comme si de rien n'était. Si je fais ça, ne m'écoutez pas, partez. Hein. Dites le pasteur, il a... Partez, parce que si l'alarme le sonne, et même si, je ne sais pas, même si c'est une fausse, je ne sais pas, mais partez, restez pas là, même si je vous dirais, non, mais c'est bon, le Seigneur est là, vous inquiétez pas, gloire à Dieu, le Seigneur est là. Ouais. Parce que s'il y a le feu à l'entrée, ou s'il y a le feu, je ne sais pas moi, quelque part, ou à l'appartement en haut, mais partez, hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le signal d'alarme, il est là pour ça, vous voyez, le signal d'alarme, il est là pour ça. Et peut-être, mon frère, ma sœur, mais de la même façon... Ça fait un moment que l'alarme elle est tirée. Ça sent le roussi. Mais il ne faut pas le banaliser, ça. Il faut au contraire venir au pied du Seigneur et dire, ben, Seigneur, écoute, si je me suis planté, je me suis planté. Si je me suis trompé, je me suis trompé. Voyez. Et peut-être, alors je prends cette image, mais peut-être ce matin, il y a le feu dans la maison. Vous savez que dans la Bible, la maison, c'est l'image de notre vie. Hein. C'est l'image de notre vie. Peut-être il y a le feu à la maison ce matin, dans un domaine, peut-être dans une pièce, il y a le feu. Souvent, quand le feu prend, ça ne prend pas dans toute la maison, ça prend dans un endroit. Et peut-être dans un endroit, il y a le feu. Ben, s'il y a le feu et que la sonnette d'alarme sonne, si tu sens le Saint-Esprit qui, d'une façon ou d'une autre, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous avertit, mais ne banalisons pas ça. Parce que c'est ce que l'autre a fait. Ça aurait dû l'interpeller, cette affaire, ça aurait dû l'arrêter. Mais il continue. Et il continue, il va même plus loin, il devient notable de la ville. Vous vous rendez compte ? Troisième chose à ne pas banaliser, ce qu'a fait Abraham, et j'en arrive au texte qu'on a lu en introduction. Ne banalisons jamais le compromis. Vous avez vu cette histoire ? Je ne sais pas vous, mais même on a du mal à la lire. Ce qu'on a lu au départ, là, l'histoire des deux filles, là, vous lisez ça, vous vous dites, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais je vous avoue, franchement, même j'ai du mal à vous le lire, parce que je me dis, mais c'est abject, quoi. C'est quoi ce truc-là ? C'est... Vous voyez ? Comme quoi, vous voyez, le cœur de l'homme, hein. Que ce soit dans la Genèse ou aujourd'hui, des fois, aujourd'hui, on voit des choses, on se dit, mais c'est pas possible. Mais ça existait déjà il y a des siècles et des siècles en arrière, parce que le cœur de l'homme, sans Dieu, il est capable de faire des choses abominables, vous voyez ? Et ici, les deux filles se retrouvent à avoir une attitude, à coucher avec le père, tout ça, enfin... Nous, on lit ça, on ne comprend pas, on peut se dire, bah, mais qu'est-ce que c'est quoi ces trucs ? Vous pensez que c'est mieux aujourd'hui, certaines histoires qui se passent ? C'est pas mieux, hein ? C'est pas mieux, hein ? Quand on entend certaines choses, quand on voit certaines choses, c'est pas mieux. Mais pourquoi ? C'est le résultat de quoi, ça ? C'est le résultat du compromis, entre autres. Et on remarque que c'est vrai, elles sont sorties de Sodome et de Gomorre, c'est vrai, mais Sodome et Gomorre étaient en elles. Vous voyez ? Sodome et Gomorre étaient restés en elles. Elles en sont parties physiquement, mais la mentalité de Sodome et de Gomorre, l'esprit de Sodome et de Gomorre était resté en elles, voyez. Mais parce que, vous voyez, quand on baigne dans le compromis, ben à un moment donné, ça donne ce genre de choses, voyez. Et je voudrais, alors je l'avais passé aux jeunes, je vais la passer, c'est pas moi, hein, c'est vidéo projectionniste, va passer la petite photo très intéressante. Voilà, vous vous rappelez les jeunes? Je sais pas vous, mais ça parle quand même. Hein. Alors, j'ai trouvé ça dans une BD. Vous savez que sur les voitures, le poisson, c'est le signe du chrétien. C'est pour ça que c'est... Hein. Et voilà le petit poisson qui dit, bah, c'est comme verre. Hein. Ouais, mais à quel prix ? C'est une petite image, mais qui moi, m'interpelle. Hein. Bon, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, oh là là, il faut pas... Pff, ce pasteur, il est toujours en train de dire « Attention, attention, attention !» Oh là là. Ouais, mais quand je vois le résultat pour les deux filles de l'autre, je me dis, ben, il vaut mieux passer pour un ringard que quand on voit le résultat, vous voyez ? Parce que si l'autre a fait des compromis, a peut-être dit « Bof, c'est qu'un petit verre, hein, après tout. Hein. » Moi, je remarque que son oncle Abraham, lui, il n'a pas voulu en faire. Abraham, il n'était pas parfait. Hein. Il n'était pas parfait. Hein. Mais dans ce chapitre 14 qu'on a lu tout à l'heure de la Genèse, quand il vient délivrer Lot, son neveu, de tous ces rois là, qui étaient venus faire la guerre au roi de Sodome, le roi de Sodome va vouloir faire un compromis avec lui. Regardez, on va le lire. Il est dit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Lohamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. » Et regardez, un petit peu plus bas, il dit ceci, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » C'est sympa quand même, hein ? Allez, on va se faire un petit compromis. Hein, toi, hein, kiff, kiff, bourrico. Toi, tu prends ça, moi, je prends ça. Vous voyez ? Et Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Pas de compromis. Il a refusé de faire un compromis avec le roi de Sodome, et le roi de Sodome, avec tout ce que ça représente derrière, le péché, le compromis, c'est tout ça que ça représente. Et il aurait pu se dire après tout, il me laisse les richesses, non, rien, je veux rien avoir à faire avec toi. Vous voyez, ça aussi, ça aurait dû interpeller l'autre quand même. Vous voyez, dire, moi je suis en train de, hein, je suis en train de naviguer avec lui, et tonton lui il veut pas. Même ça l'a pas alerté, vous voyez. Même ça, ça ne l'a pas interpellé. Et j'aimerais peut-être nous dire ce matin, mais mon frère, ma sœur, si peut-être dans certains domaines, on s'est habitué à certains compromis. Bon, est-ce que vraiment c'est si grave que ça? C'est vrai que des fois, on peut se retrouver dans des situations où on se pose des questions. Est-ce que... Alors, je veux essayer d'être équilibré là-dessus, parce que c'est vrai que la Bible dit aussi de ne pas être juste à l'excès. Il ne faut pas tomber non plus... voyez, on est tous d'accord là-dessus. Il ne faut pas être juste à l'excès. On est tellement des fois juste que... On veut tellement être spirituel, des fois même plus spirituel que Dieu, que des fois... Alors, il ne s'agit pas de tomber dans cet extrême-là. Mais attention, il ne s'agit pas de tomber de l'autre côté en se disant... Oh, ça peut être au niveau de l'argent. Vous voyez. Il y a des choses, c'est pas trop réglo, mais enfin bon, on le fait quand même. Hein. Oh, hein, c'est le frère qui en parlait, je crois, Martinez, qui en parlait, vous savez. Les dessous de table, hein. Le black, etc., etc. Ben ouais, je sais bien que aujourd'hui, bon, après tout, ben ouais, mais. Quand on commence à ouvrir la porte à tout ça, c'est des compromis tout ça. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Et après, on est pris. Et puis un jour, on aura quelque chose à dire à cette personne. Elle dira quoi? Tu me dis ça, mais tu ne te rappelles pas que ça ne t'a pas gêné à l'époque de faire... Hein? Parce qu'on sait vous le mettre à la figure après. Hein? Après, on sait vous le redire après. Hein? Quand vous avez mis la main une fois dans le pot de confiture, hein? La fois d'après, si vous dites, ah non, mais moi, je... Hein? Non, et la dernière fois, par contre, oui, ça ne t'a pas gêné. Ça, on saura vous le mettre à la figure. Hein. Ça peut être le mensonge. Peut-être, des fois, on s'arrange un peu avec la vérité. Vous voyez, on ne dit pas toute la vérité. On joue sur les mots. Voilà, on joue sur les mots. Ben ouais. Mais tout ça, c'est du compromis. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que il ne faut pas tomber dans l'autre extrême ou sous le... Des fois, sous le couvert de la vérité, alors moi je dis ce que je pense, bam, bam, on fracasse tout. Il y a des manières aussi de. Il y a peut-être des manières de dire les choses, en tout cas. Vous voyez, mais. Je soulève deux petites choses là, mais c'est important. Ne banalisons jamais le compromis. Parce que à ce petit jeu-là, on finira toujours par perdre. Vous savez, cette photo-là qu'on a vue, bah, c'est qu'un petit verre. Bon, pff. Vous savez, le diable, l'ennemi de notre âme, c'est un bon commercial. Hein. Ah, c'est un très bon commercial. Et il saura vous faire avaler bien des choses. Et il est très fort, plus fort que nous. Il a les bons arguments. Il saura nous convaincre. Hein. Il saura nous convaincre. Le diable, c'est un bon marchand de tapis. Il vous fera prendre tout ce qu'il faut. Et puis après, une fois que vous aurez mordu à l'hameçon, il sera le premier à venir vous culpabiliser. Il dira, eh ben, et toi, t'es chrétien. Eh ben, ah, tu vois, et tu te dis chrétien. Et tu vas prier à l'église. Ah, dimanche matin, qu'est-ce que tu as prié? Ah. Vous voyez, d'un côté, il vous pousse, et puis de l'autre, après, il vous met le compte. Ben, je crois que c'est important. Le compromis. Oui. Compromis. Et puis, le Saint-Esprit est attristé. Et ça, il faut le réaliser. Et puis, une dernière chose à ne pas banaliser, je ne veux pas être trop long ce matin. Rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre va dire concernant Lot. Pourtant, on est des siècles après. Regardez. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Il est question de Sodome et de Gomorre. Il dit, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Je me dis, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Enfin bref, ça c'est autre chose. Regardez, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, déjà on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il faisait là lui? Il n'avait rien à y faire, mais il y était. Regardez ce qu'il faisait. Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Ça veut dire que Lot, il a bien vu que ça n'allait pas là-dedans. Si vous permettez l'expression, il a bien vu que... il a vu des choses qui l'ont rendu malade, quoi. S'il tourmentait journellement son âme, ça veut dire qu'il a vu des choses qui le rendaient malade. Il a vu des choses, il s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Il s'est dit, vous voyez, on sent que dans son être intérieur, mais il n'était pas tranquille, vous voyez. On sent qu'il n'est pas bien. On sent que, il est quelque part, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, fait ressortir un petit peu l'état d'esprit, l'état de cœur dans lequel était Lot quand il habitait dans cette ville. Et on sent que c'était pas la sérénité. Hein, que dans son cœur, il avait un combat, quoi. Il tourmentait, moi cette expression m'a interpellé, il tourmentait journellement son âme. Ça veut dire que des fois quand il passait, il voyait des choses, il disait, oh là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible, mais comment ils peuvent faire des trucs comme ça, etc., etc. Vous voyez, ça le laissait pas en paix, il était pas serein. Voyez, moi je crois que on peut être dans la difficulté et être en paix. C'est beau quand on vit ça. Vous passez par une difficulté et presque c'est les gens autour de vous qui sont plus inquiets que vous. Et vous, vous êtes dans la paix. Vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est la paix surnaturelle de Dieu, la paix divine de Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes dans un moment pas évident. Il y a des turbulences comme dans les avions. Vous voyez, ça bouge un peu, ça secoue. C'est peut-être la santé, le travail, la famille, etc. Mais vous, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes en paix. Gloire à Dieu. Quand vous vivez ça, c'est extraordinaire. Vous êtes là, vous dites, mais... Et même les gens à côté, ils disent, mais tu vas bien? Ouais. Tu n'es pas affolé? Non. Mais ça va. Mais tu sais ce que... Oui, oui, je suis au courant, oui. Mais il y a la paix de Dieu. Ça, c'est beau quand vous vivez ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais là, Lot, il n'est pas en paix. Hein. Il n'est pas tranquille. Hein. Vous voyez? Et je me dis quelque part... C'est quelque chose qui aurait dû l'inquiéter, ça. C'est quelque chose qui aurait dû l'interpeller, vous voyez, quand on n'a pas la paix intérieure. Alors, je ne parle pas des moments de stress, d'angoisse, ça peut arriver à tout le monde, hein, un truc, une situation, on va se faire baptiser l'après-midi, on est tendu, ça c'est normal, ça. Ça c'est normal, on va se marier, on va, je ne sais pas, moi, on est... Bon, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce genre d'angoisse-là, de trucs circonstanciels. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un état. On n'est pas tranquille. Personnellement, j'en ai toujours fait un indicateur. La paix intérieure. S'il n'y a pas la paix intérieure, quel que soit le domaine, le projet, personnellement, ça a toujours été un indicateur. S'il n'y a pas cette paix, si oh là là, vous êtes tourmenté, vous ne dormez pas, je me dis là, c'est que peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose à voir ou à revoir, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais il y a quelque chose en tout cas où il faut réfléchir, quoi, il faut se mettre devant Dieu. Ça, c'est un bon indicateur, parce que je crois que Dieu est capable de nous donner la paix, même au milieu de la pire des difficultés. Regardez les trois amis de Daniel. J'en parlerai mardi soir. Il y a des moments où tout va mal et pourtant tout va bien. Vous vous dites, il est fou. Mais c'est ça. Tout va mal, mais tout va bien en fait. Il y a la paix. Voilà. Il y a la paix. Les trois amis de Daniel, il y a la paix. Et on pourrait multiplier les textes comme ça, vous voyez, dans la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la paix, vous voyez, si vous n'avez pas la... Vous dites, là, ben là il y a peut-être quelque chose à revoir. Voyez. Et je crois que ça aussi, c'est ne le banalisons pas. Il y a des choses comme ça que le Seigneur nous donne. Et si ce n'est pas le cas, et Lot, vous voyez, je me dis que ça ne devait pas être facile. Hein, quand il tourmentait journellement son âme, à cause de ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, parce qu'il devait entendre de ces trucs là-dedans, je me dis... Des fois, nous, on en entend, on se dit, mais c'est pas possible. On en voit, on se dit, mais c'est pas possible. Ben lui, c'était ça, journellement. Je me dis, mais... Enfin, je sais pas, alors je vais pas le juger. Mais je me dis, mais moi, j'aurais pris les jambes à mon cou et... Je reste pas là. Il restait là. Je crois que ça doit quand même nous interpeller. S'il n'y a pas la paix, le Seigneur, c'est que là, il y a quelque chose. Alors, je termine. Lot, il a tout perdu. Finalement, et on a vu l'histoire, hein. Et ça doit nous interpeller, parce que justement, Dieu veut pas qu'on perde tout. Ouais, des fois, on peut perdre des plumes. Dans la vie avec Dieu, des fois, on perd des plumes. Hein. Des fois, ça, hein, on peut perdre des amis, on peut des fois, parce que les gens... Je parle pas de ça. Mais quand je considère Lot, je me dis quand même. Je suis convaincu qu'il y avait autre chose pour lui. Voyez. Et mon frère, ma soeur, je crois que son histoire, elle est là pour nous amener à réaliser. Il y a des choses à ne pas banaliser. Aujourd'hui, on banalise tout. on minimise tout. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer et pour nous interpeller. Voyez. Et je termine en disant ceci. Moi, j'ai l'impression, ça c'est un avis personnel, j'en fais pas une doctrine. Lot, il est sorti de Sodome et de Gomorre. Je l'ai dit, mais il sort dans un état. J'ai l'impression qu'il est sauvé, mais comme au travers du feu. Rappelez ce que dit Paul dans les Corinthiens. Être sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire sauvé, mais alors limité. Hein. C'est juste de juste. Hein. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, Lot. Il est sauvé, mais comme au travers du feu. Je ne sais pas vous, mais moi, je bénis le Seigneur. Seigneur, tu m'as sauvé. Mais je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Hein. C'est-à-dire que j'ai tellement flirté avec tout un tas de trucs. J'ai tellement... Parce que ça, c'est dangereux. Hein. Ça, c'est dangereux. Hein. Quand on joue à ce jeu-là, je ne sais pas dans quel état on sort, mais je me dis, c'est dommage, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut, qu'on soit sauvé comme au travers du feu. C'est pas ça que Dieu veut. C'est, hein, moi, je pense à ces... Alors, c'est des paraboles, bien sûr, mais quand je vois, j'entends la parabole des talents, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle à un peu de choses, etc., etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Je me dis, waouh, ben, c'est plutôt ça que je veux tendre plutôt vers ça, plutôt que de me dire, vous savez, oh, ben, du moment que je suis dans le ciel, sur un petit strapontin, je vais vous dire, un strapontin dans le ciel, au bout de, pour l'éternité sur un strapontin, tu vas avoir mal. Hein. Donc, il vaut mieux plus que ça, quand même. Hein. Il vaut mieux plus que ça, quand même. Je me dis, Dieu a plus que ça. C'est une image que je donne, le strapontin, bien sûr. Hein. Je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu, moi. Je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Ça passe, mais alors. Hein, juste. D'autant plus que ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas me dire, oh, ben moi, ça me convient. Oui, tu sais pas. Parce que peut-être ça peut basculer et mal finir. Voyez. Lui, il, à force de jouer avec le feu... Il a été sauvé, il est sorti de Sodome et Gomorre, mais alors, il ne reste plus rien, il a tout perdu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on soit des gagnants. Alléluia. Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au jour où on sera pour l'éternité avec lui. Et je crois que Dieu a de bonnes choses pour chacune de nos vies. On n'a pas besoin de jouer avec le péché, avec le compromis, de flirter avec les lignes. On n'a pas besoin de ça. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et je veux y goûter, je veux y rentrer. C'est pour ça que si peut-être il y a des moments, et ça arrive dans la vie avec Dieu, ça m'est arrivé, ça m'arrivera certainement encore, où il y a des signaux d'alarme, eh bien, Seigneur, je veux les entendre. Et Seigneur, eh bien, avec ta grâce et ton aide, tu vas m'aider à rectifier. Mais la vie de Lot, elle est là pour nous interpeller. Alors que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Alors que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur, ce matin...